Bonjour à tous, merci d'être là en ce vendredi après-midi pour une conférence avec une thématique à la fois très intéressante mais alors très très large également puisqu'il s'agit de frontières et spiritualité. Avec nous, nous avons quatre auteurs. Alors je vais commencer par les dames, par Karina Rosenfeld qui est auteure jeunesse, alors notamment Les Clés de Babel et le dernier Les Portes d'Oregon. Pardon, excusez-moi, qui vient tout juste de sortir en avant-première à la librairie. Nous avons Jean-Claude Bologne, qui est avec nous également et qui vient de publier L'Ange des Larmes chez Calman Levy, où on va avoir un archange, donc ça va nous permettre de rentrer aussi dans la thématique. Pierre Bordage, que vous connaissez sans doute. On va quand même rappeler.
Qu'on ne présente plus.
Je veux te présenter.
La vedette.
Avec Pierre Bordage, Les Guerriers du Silence, enfin plein. Le dernier, c'est la réédition du dernier.
Non, le dernier, c'est un recueil de nouvelles paru à la Talente, oui, qui s'appelle Les Dernières Nouvelles de la Terre.
Voilà, très intéressant aussi. Et puis je voulais parler aussi du Feu de Dieu et de Frère Calkin, et puis de l'Évangile du Serpent, qui sera bien dans notre thématique. Et juste à ma gauche, Bernard Werber, dont le dernier livre, Le Rire du Cyclope, est paru le 3 octobre.
Oui.
Exactement, voilà. Alors, la thématique est assez large, il y avait deux sous-titres. Y a-t-il un dénominateur commun entre toutes les spiritualités pour atteindre le divin? Déjà, ça nous pose le problème. Et le deuxième, c'est à l'inverse, ces spiritualités dépendent-elles de la culture dans laquelle nous avons été éduqués? Autant vous dire que le sujet est large. Et qu'en une heure, ça va être court. Pour la spiritualité, j'ai été regarder un petit peu sur Internet. On peut trouver deux définitions. La perspective de l'être humain avec un Dieu. Voilà. Ou alors la quête de sens ou de libération, notamment par des rituels ou par de la méditation ou de la prière. Ça, c'est pour poser un petit peu notre sujet. On va faire un premier tour avec chacun des auteurs pour parler de leur œuvre et à la fois de la spiritualité et de la religion dans leur livre, et puis après on va se faire une petite séance de questions ouvertes. Voilà, Pierre Bordage, je pensais que spiritualité, on allait se raconter des blagues, mais finalement non. Peut-être une première question pour Monsieur Bologne. Dans L'Ange des Larmes, il y a un archange, Cassiel, qui va rencontrer un jeune homme qui est juste après la Commune, qui est très exalté par la Commune de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez conçu votre archange?
Oui, le nom de l'archange Cassiel m'a été donné par un ami qui me dit un jour, j'ai appelé mon fils Yentnet, je viens de l'appeler Cassiel. Je n'avais pas vu le Wim Wenders, donc je ne connaissais pas l'archange Cassiel. Or, comme je donne des cours d'iconologie médiévale dans lesquels je parle beaucoup d'anges, d'archanges, j'ai été intéressé par le nom. Je l'ai adopté tel quel, Cassiel est l'ange des larmes, et ça parle tout de suite à un auteur, cette expression l'ange des larmes. C'est après avoir écrit le livre que j'ai été chercher sur internet, j'ai vu que c'était effectivement un archange que l'on interrogeait le samedi dans certains rites magiques qui n'ont absolument eu aucun effet ou aucune influence sur ce que j'ai voulu dire à travers cet archange des larmes. Ce que j'ai voulu montrer à travers les anges et les archanges, les démons et les archontes de l'enfer, c'est que la différence ne passe pas nécessairement entre le bien et le mal, je ne crois pas, entre l'opposition entre le bien et le mal, mais entre l'exigence, l'intransigeance et une certaine compromission. Alors dans l'ange des larmes, les archanges, les archontes sont ces personnages tellement exigeants qu'ils mènent le monde à sa perte, tandis que le monde ne survit que par les bons petits démons et les bons petits anges qui au quotidien s'incarnent dans les hommes, dans les femmes, pour que le monde finisse par perdurer. Je parle beaucoup d'anges, d'archanges, de dieux, de mystiques, de convulsionnaires, de béguines dans tous mes romans, ce qui est très paradoxal pour quelqu'un qui fait profession d'athéisme. Mais c'est justement parce que je fais une différence très nette entre la religion, qui est une expression culturelle des spiritualités, et des expériences mystiques et tout ce qui peut naître de l'homme dans une quête de spiritualité ou dans une expérience mystique qui n'a pour moi rien à voir avec les religions. Nous en parlerons tout à l'heure si vous le souhaitez, mais les plus purs d'entre les mystiques, qui sont pour moi les mystiques réno-flamands du XIIIe, XIVe siècle, ont immédiatement ancré leur expérience dans l'athéisme. Je rappelle la formule de Maître Eckhart, je prie Dieu de me délivrer de Dieu. Pour un athée, ça parle très fort. Marguerite Porret, Seigneur, je me désencombre de vous. Pour aller au fond d'une expérience spirituelle, d'une expérience mystique, le concept même de Dieu est quelque chose de trop fort. Donc je me suis dit qu'en tant qu'athée, je suis peut-être mieux armé pour aller vers la spiritualité, vers le mysticisme, sans m'embarrasser de religion.
Parlons du deuxième personnage, donc il y a un jeune homme juste après la Commune qui est un peu échauffé par les idées de la Commune de Paris. Quel est son rapport, lui, à la spiritualité, à la religion ?
Alors, dans une famille aristocratique, puisque le sujet m'a été donné par un petit entrefilet dans un journal du XIXe siècle, je trouve qu'un jeune homme, Philippe de M, s'est suicidé en se plantant dans le cœur le couteau de Ravaillac. Là aussi, j'ai envie de raconter pourquoi et comment. Donc, le personnage d'un fils de bonne famille, élevé dans la tradition religieuse, mais qui passe par la Commune, et donc qui se révolte contre son expérience, sa tradition religieuse, contre cette espèce de religion patrimoniale que l'on véhicule de génération en génération sans jamais s'interroger sur ses fondements. C'est un personnage qui est totalement à l'inverse de ce que j'ai pu être, puisque moi je viens d'une famille athée, je suis resté athée, mais j'ai eu des expériences qui font que je me suis intéressé à certains concepts religieux, tout en restant athée. Donc, c'était l'expérience exactement inverse de la mienne, et ça me permettait d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration des rapports avec la religion. Alors, ces rapports avec la religion sont des rapports de révolte. Les rapports de révolte intéressent, dans mon roman, les archanges. Les archanges, comme les archontes, dans cette intransigeance qui fait qu'on doit aller totalement vers le mal ou totalement vers le bien, sont particulièrement intéressés par ceux qui sont en rupture totale avec eux-mêmes, avec leur famille, avec le monde, avec la politique, avec la religion, et s'investissent en eux jusqu'à ce que le monde explose. À côté de cela, j'ai le personnage de Marie qui est dans qui est la petite midinette amoureuse, qui a envie de vivre cet amour qu'elle a lu dans les livres et qui s'accroche à son bel étudiant. Et qui elle aurait envie d'être investie plutôt par ces anges débonnaires, ces anges qui ont envie que le monde perdure qu'un et qu'à avec les petites compromissions qu'il faut bien faire pour que les choses aillent de l'avant. Bien entendu, ça ne peut qu'entrer en conflit avec l'univers des archanges, et c'est un peu ça, le conflit ne peut être tranché que par le couteau de Ravaillac, voilà.
Je vais poser un peu la même question à Karina, parce que Karina a écrit un roman qui s'appelle Le Mystère Olfit, dans lequel il y a une religion presque de toute pièce, avec notamment des gens qui ont des liens télépathiques avec les comètes et qui deviennent quasiment des saints. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as organisé ta religion et pourquoi avoir mis ce genre de système en place ?
Oui, alors je suis partie du principe déjà pour les fondements de cette secte, religion, on peut l'appeler comme on veut, que les personnes qui étaient capables d'avoir ce lien télépathique, donc les Olfites, étaient tous des hommes à la base. C'est génétiquement des hommes qui peuvent se le transmettre de père en fils. Et donc les femmes, il y a des femmes qui se portent volontaires pour être enceintes de garçons, donc il y a déjà une sélection qui se fait. On implante des embryons mâles seulement pour être sûr que ça va donner des olfites qui vont être séparés de leur mère à 8 ans pour être transplantés dans des écoles olfites qui sont sur les plus hautes montagnes sur la planète et qui vont rester enfermés en fait toute leur vie dans ces écoles, ensuite dans des temples. Donc ils sont étudiants, ensuite arrivés à 18 ans, à bout de 10 ans de formation, ils deviennent gardiens du silence. Pendant 2 ans, ils doivent garder le silence, justement, comme leur nom l'indique, pour pouvoir se concentrer sur cette communication télépathique avec les comètes. Et ensuite, s'ils réussissent l'épreuve, ils deviennent prêtres et enfin grands prêtres. Et là, on découvre que les grands prêtres ont une vie très particulière, hein, puisqu'on les met en état végétatif, où tout ce qui intéresse, en fait, c'est leur connexion mentale avec la comète. Donc, c'est ce qui va un peu déclencher aussi toute l'histoire. Donc, je suis partie du principe, déjà, que c'était une organisation purement masculine, avec des étapes à passer toute la vie, où finalement, on avait un destin tout tracé dès la naissance. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas all fit par hasard. C'était une volonté de la part de la mère, déjà, de porter cet enfant, et la part des all fit de créer d'autres all fit, puisque ça ne peut être que des garçons. Voilà. Avec des histoires de manipulation génétique derrière, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a des labos qui se sont rebellés parce qu'ils veulent créer des olfites filles et qui ont manipulé des embryons pour pouvoir faire des filles olfites. Voilà.
Dans ton roman, il y a vraiment tout un parcours pour atteindre le statut de prêtre.
De grand prêtre, oui.
Ouais. C'était vraiment l'idée d'avoir un parcours, une quête pour aller jusqu'à la spiritualité, tout au moins toucher une partie du divin.
Oui, surtout que comme on va dire finalement c'est l'antagonisme, c'est qu'il y a un côté les grands prêtres qui sont dans cet état comateux où leur esprit est relié à des ordinateurs qui traduisent leurs impulsions mentales en données puisqu'ils traversent l'espace et l'univers à travers les comètes et que ça permet d'avoir des informations directement sur l'espace. Donc il y a cet état végétatif de non-vie en fait où ils atteignent peut-être un niveau total où là, puisqu'on parle de frontières et de spiritualité, où il n'y a plus de frontières, il n'y a que leur esprit qui compte. Et à côté de ça, le grand prêtre qui est à la tête des Olfites, Icar, qui lui, par contre, est purement dans son rôle humain, c'est-à-dire qu'il est descendu de sa montagne, il se mêle de politique, il se mêle d'économie, il se mêle des petites affaires humaines. Donc, mais son but, c'est de partir dans les étoiles, mais autrement. Je ne vais pas raconter toute l'histoire.
Très bien. Bernard Werber, parlons un petit peu, alors, notamment dans votre bibliographie, je me suis intéressé un peu à Nous les dieux, puisque du coup on a un personnage qui est élève en divin, entre guillemets. Comment vous l'avez conçu et est-ce que vous pouvez nous raconter, parce qu'il y a plusieurs divinités dans ce livre.
Alors là, c'est très simple. Je l'ai conçu en jouant à un jeu qui s'appelle Civilisation. Je me retrouvais le dieu d'un peuple virtuel. Donc je joue à Civilisation depuis maintenant plus de 15 ans. Et depuis 15 ans, je teste le communisme, l'anarchisme, la monarchie, la république, la démocratie. Et je vois les inconvénients, les avantages. Donc j'ai imaginé quelque chose qui ressemblait en fait à 144 joueurs de Civilisation qui ont chacun un peuple à gérer. Et ce qui est intéressant, c'est la problématique, c'est pas est-ce que Dieu existe. La problématique, c'était sachant que Dieu, c'est nous, est-ce qu'on peut s'occuper facilement de gérer un peuple et comment nous-mêmes, nous avons peut-être quelqu'un qui se donne beaucoup de mal, mais qui est peut-être maladroit ou qui est peut-être élève ou qui est peut-être enfant et nous en avons une vision complètement idéalisée, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des défauts, des et des qualités comme n'importe qui. Donc j'ai conçu Nous les dieux en expérimentant ce que peut être la responsabilité d'un joueur par rapport à son peuple. Vous savez déjà quand vous jouez aux échecs, vous avez 18 pièces et vous essayez de les sauver. Et chaque fois que vous faites bouffer une pièce, vous avez une petite douleur, comme un papa avec ses enfants. Eh ben, il faudrait imaginer qu'on ait non pas 18 pièces, mais 16 pièces, mais 8 et 8, ouais, 16, mais qu'on ait des millions et des millions d'êtres, et on se retrouve par moment à être obligé d'en sacrifier une partie pour sauver le groupe. Voilà. Et c'était juste une manière de changer de point de vue. Au lieu de se dire est-ce que Dieu existe, se dire, sachant qu'il existe, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il pense? Et c'est quoi ses problèmes? Et dans ce moment-là, la problématique du vulgum pecum, du mortel, c'est non pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour aider Dieu à faire son boulot correctement, le mieux possible.
C'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs romans. Oui, quelle est sa quête, quelle est sa progression?
Sa progression est la progression de tous les personnages de romans. C'est au début il est bête et à la fin il est intelligent, ou au début il est inconscient, à la fin il est conscient, ou au début il dort et à la fin il est éveillé. J'ai pris 5 volumes de 700 pages pour faire que au début dans l'état internaute c'est un être normal et à la fin du mystère des dieux il a touché l'absolu, c'est-à-dire qu'il a compris même pourquoi il était dieu et il a compris quelle était le sens de l'univers. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de pages pour expliquer ça.
Est-ce que ça émane d'une quête de spiritualité?
Oui, pour lui, j'aime bien dans le mot spiritualité la notion de spire, c'est-à-dire c'est un truc qui tourne et qui monte. Pour moi, la spiritualité, ça tourne et ça monte. Donc une quête de spiritualité, c'est l'envie de se mettre dans un ascenseur qui tourne et qui monte. Et je mettrais le contraire de la spiritualité, c'est tourner sans monter, c'est tourner en rond. Et c'est le propre de tous les systèmes dits réactionnaires, c'est-à-dire ils ont peur qu'en s'élevant, on tombe devant des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils proposent à tout le monde de refaire les expériences passées. Alors on appelle ça tradition, on appelle ça dogme, on appelle ça fanatisme, mais au final c'est des gens qui proposent pour les individus actuels de refaire ce qu'ont fait leurs ancêtres, parce que ça au moins ils savent le faire, alors que les technologies, la découverte de l'univers, c'est le monde de l'inconnu, donc la possibilité d'être mis en question pour eux. C'est pour ça que je crois qu'on risque de voir des guerres de religion, parce que ceux qui ont envie de rentrer dans un système de spiritualité vont se retrouver en conflit avec ceux qui veulent maintenir dans la religion parce que c'est carré et que c'est solide et que ça a déjà fait ses preuves. Et il risque d'y avoir des conflits entre les religions, mais des conflits entre les religieux et les spirituels, et des conflits entre les cartésiens matérialistes et ceux qui veulent aucun rapport avec tout ce qui est mystique, on va dire. Voilà, et on s'avance vers ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est un joli suspense, et je crois qu'on est né à la bonne génération, parce qu'on devrait voir les choses soit évoluer, soit se dégrader très vite.
On pourra s'interroger tout à l'heure sur la frontière, justement, entre spiritualité et religion, ce qui relève de la spiritualité, et à partir de quel
moment... Il y a des religions qui ont une dimension spirituelle, qu'ils entretiennent, c'est-à-dire que dans le système qui tourne, ils ont mis une zone qui monte, mais il y a des religions qui n'ont pas cette dimension spirituelle, et il y a des spiritualités qui n'ont aucune dimension religieuse. C'est pour ça que ça m'énerve toujours quand les gens confondent spiritualité et religion. Voilà. Fin de parenthèse.
Très bien. On va poser la question à Pierre Bordage. Oui. La spiritualité, ça le connaît.
Je ne sais pas, justement, si ça me connaît tant que ça, ou si je la connais tant que ça.
Parce qu'il y a notamment l'évangile du serpent, avec une... Si ce n'est une réécriture du Nouveau Testament, pourquoi avoir voulu refaire un petit peu ce chemin ?
Parce que quand on voit le nombre de livres dans tous les motels américains, on se dit que ça va faire des sacrés tirages déjà. C'est très spirituel, merci Karina. Faut que je parle de mon histoire. Alors moi je suis né en Vendée, comme certaines personnes dans cette salle probablement, parce qu'on n'est pas loin de la Vendée ici. Une région qui est très marquée par la religion. Et petit, j'avais des élans mystiques. C'est-à-dire que je sentais en moi des transports d'origine inexplicable qui me procuraient un état extatique un peu. Et non, pas de drogue, Bernard. Non, merci. Et donc, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit « Mais évidemment, la solution, c'est de devenir prêtre ». Donc d'aller au séminaire, et donc en sixième, je me suis retrouvé à Chavagnes-en-Payet, en Vendée, donc au petit séminaire. Et pendant 4 ans, les prêtres, qui étaient mes professeurs, se sont ingéniés à casser ma spiritualité. C'est-à-dire que pour eux, ça n'intéressait pas d'avoir quelqu'un libre, parce que pour moi, spiritualité égale liberté, mais d'avoir un bon petit soldat qui va propager, comme disait Bernard, les idées anciennes, etc. Ce qui nous ramène à des penseurs indiens comme Krishnamurti, dont j'ai parlé hier soir, qui dit que la pensée ramène toujours vers le connu. Et c'est ce que, évidemment, font les religions. Donc, donc j'ai beaucoup étudié les livres sacrés, comme les évangiles, l'Ancien et Nouveau Testament, etc. Et dans le Nouveau Testament, pourtant réécrit par des copistes, etc., donc probablement transformé, je me suis rendu compte que les enseignements qui sont contenus dans le Nouveau Testament, quand on regarde ce qu'on a fait l'Église, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. L'Église est devenue une sorte de gigantesque empire matérialiste qui est à l'encontre même de ce qui a marqué dans son propre livre. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce décalage ? Pourquoi tant de haine ? Et donc, je me suis dit... si un Christ maintenant arrivait... Qu'est-ce qui bouleverserait dans notre perception des choses? Comment il serait reçu? Et donc j'ai repris le schéma du Nouveau Testament, c'est-à-dire 4 évangélistes, qui raconte l'émergence d'un nouveau Christ, qui évidemment est combattu par tout le monde, parce qu'il fait aussi des miracles. Des... Et c'est un Indien d'Amazonie, parce que j'ai transposé, à savoir, bon, la Judée était une province romaine, l'aigle romain à l'époque, et j'ai estimé que l'Amérique du Sud était une province américaine, l'aigle américain de notre temps. Donc j'ai imaginé que ce Christ émergeait en Amérique du Sud, donc dans une peuplade indienne qui était sauvée par un missionnaire, donc l'épisode d'Hérode, etc. aussi, et puis ramené en France dans le Larzac par ce missionnaire, etc. Et il développe ses dons, et donc il devient une sorte d'enseignant spirituel. Et comme l'ancien, puisqu'il dérange des vérités établies et des organisations, il va être mis à mort, tout simplement. D'abord, il va passer par le biais du jugement. Donc, l'époque, c'est Sanhédrin. Et là, maintenant, on est dans la télé-réalité. Donc, il va plutôt aller dans la télé-réalité. Et donc, il va être condamné à la télé-réalité et massacré par une organisation. Voilà. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'émergence d'un nouveau... À mon avis, les enseignants spirituels, quand ils arrivent, sont des gens qui ramènent les gens vers la liberté intérieure. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et puis, au bout d'un moment, il y a les disciples. Le disciple, lui, c'est celui qui ne vit pas l'expérience en direct, donc qui déduit intellectuellement de ce qu'il faut vivre de l'expérience et qui impose l'expérience en disant « c'est comme ça qu'il faut la vivre ». Et à mon sens, un enseignant spirituel, c'est quelqu'un qui n'a, tu parlais des dogmes, aucun dogme. C'est-à-dire qui invite chacun à expérimenter directement la source du divin. Là, vous avez parlé de Maître Eckhart tout à l'heure, donc moi, je suis très intéressé par toute cette mystique-là. Je connais un autre qui s'appelle Angelus Silesius, qui dit « mon signe est le non-signe, mon lieu est le non-lieu ». Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement, je me suis rendu compte que la religion, alors la religion et la spiritualité est différente, la religion, ce n'est qu'une accumulation de connaissances, de lois, un appareillage qui devient du coup du matérialisme spirituel. Pour moi, la religion, c'est matérialiste spirituel. Et le mysticisme, ou la spiritualité vraie, libre, c'est l'apprentissage de la perte, donc de la liberté. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se dégager, se débarrasser de toute forme de conditionnement et donc gagner une sorte de liberté intérieure en dehors de toute organisation. Voilà.
Mais alors, quelle est la frontière, justement, entre cette spiritualité et la religion ? À quel moment on bascule ?
Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est quasiment à la deuxième génération, c'est-à-dire à la génération des disciples, qui, eux, n'expérimentent pas directement et qui, essayer de faire passer le message qu'ils ont cru comprendre de l'enseignement spirituel, vont fabriquer un corpus des dogmes et tout un enseignement en disant « c'est comme ça qu'il faut penser ». Et là, c'est fini. On a perdu la spiritualité. Et d'un seul coup, on se retrouve en décalage, mais énorme, avec les enseignements du prophète, de celui qui avait l'expérience directe. Et là, c'est perdu. On est repris dans un mécanisme dont la pensée, qui ramène toujours vers le connu, et on se rétablit. Je pense que l'Église catholique, je ne sais pas si mon voisin sera d'accord, mais s'est rétabli un peu sur les ruines de Rome. On a repris un petit peu le fonctionnement. D'ailleurs, c'est les Romaines, hein, l'Église. Et donc, est devenu un nouvel empire spirituel, donc qui n'a plus rien à voir, alors que... Dans les évangiles, il y a quand même marqué il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, ce qui quand même devrait lever un petit doute chez nos chers. Et ce qu'ils ont fait, c'est des ors et des dômes et des guerres et des morts. Et je pense qu'on est à l'exact opposé. Et je pense que ça se fait presque tout de suite, quoi. Dès que quelqu'un se charge d'interpréter la parole du premier.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir justement sur cet aspect spiritualité-religion, Jean Coulbon ?
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites de la religion, de Rome, du pouvoir de l'argent, qui moi ne me concerne pas du tout. Vous avez parlé du prophète, de celui qui est à l'origine, de celui qui a l'expérience. Pour moi, ça commence là et ça s'arrête là. Tout maître à penser qui essaie de nous faire pénétrer dans sa propre pensée n'est pas un maître à penser. Un maître à penser qui se promène en vous-même, c'est lui qui l'y projette. La spiritualité, le mysticisme, ce sont des expériences qui sont très dures à vivre. Vous les avez vécues dans un milieu qui était chrétien. Et la réponse est automatique, mais il faut être prêtre. Je pense que ça va être dur à vivre. Dans un milieu athée, la réponse est automatique, c'est de la folie. C'est tout aussi dur à vivre. Et l'on doit s'inventer sa propre spiritualité, sa propre démarche, y compris sa propre religion. C'est terriblement perturbant de vivre des choses en sachant qu'on risque de ne plus jamais les vivre, que c'est ce qui est arrivé de plus important dans notre vie, que ce qui va suivre ne pourra à cette aune qu'être terne. Et pour survivre à cela, il faut s'inventer sa propre petite théologie. Alors, moi, je me suis inventé ma petite théologie athée, et puis 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que ce que je m'étais dit pour survivre à cela, d'autres se l'étaient dit dans un autre contexte. Et là, j'ai commencé à lire Maître Eckhart, Marguerite Porret, Hadwig, Silésius, etc. Là, ce sont des maîtres à penser qui ne m'ont pas conduit en moi-même. C'est moi-même qui ai rencontré des personnes qui avaient le même discours que moi. Je pense que la différence est là.
Il y a un mot qui n'a pas été prononcé ici, c'est agnostique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que athée ou mystique. Il y a une position médiane qui me semble celle de l'honnête homme moderne. C'est je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si Dieu n'existe pas, donc je me renseigne. Ce qui est le propre, d'ailleurs, ce qu'il faut faire pour n'importe quoi, c'est quand on ne sait pas, on se renseigne, plutôt que de dire mais il me semble qu'il existe ou il n'existe pas. C'est-à-dire que cette intuition de l'existence ou de l'inexistence de Dieu devient au bout d'un moment une agression contre les autres. A priori, il n'y a pas un seul prêtre qui a rencontré Dieu, donc je ne vois pas de quel droit ils peuvent dire « je parle au nom de la parole de Dieu » puisqu'ils ne savent même pas quelle formule a. Donc ils peuvent dire « il me semble que Dieu est comme ça » et dans l'hypothèse où Dieu serait comme ça, il me semble que ça lui ferait plaisir si vous faisiez ça. Ça serait la vraie parole honnête, ça serait de dire ça. Après, de dire « il y a machin, je me réfère à Jésus qui lui-même a vu Dieu », c'est un peu facile parce que Jésus n'est pas là en effet pour dire « attendez, moi qui l'ai vu, je vais vous dire comment il est ». Donc on a juste des gens qui prétendent le connaître. Mais même Saint Paul, beaucoup de gens l'oublient, mais Saint Paul n'a même pas rencontré Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il forme une religion alors qu'il n'a pas vu le bonhomme. Il dit « je parle en son nom, mais je sens, j'ai compris ce qu'il a dit ». Et si on regarde bien ce qu'a fait Saint Paul, c'est que Saint Paul a quand même flingué tous les copains de Jésus en disant « eux, ils n'ont rien compris au message de Jésus, mais moi qui ne l'ai pas connu, je peux vous dire, j'ai vraiment bien compris ce qu'il voulait dire ». Et il garde les 4 évangélistes, mais il y a tous ces évangiles apocryphes, c'est en fait les autres personnes qui ont connu Jésus qui racontaient autre chose, et il semble qu'au Vatican, justement, certains de ces récits sont encore conservés, ce qui montre bien que l'Église n'a pas envie qu'on sache qui était vraiment Jésus. Mais des quelques petites phrases qui restaient comme « aimons-nous les uns les autres », qui est plutôt sympa, ou que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ou le fait qu'il chasse les marchands du temple, on peut déduire, même par l'homme qui a vu l'ours, que le type avait peut-être pas vu Dieu, mais en tout cas, il avait une sorte de bon sens et de spiritualité qui fait que ça a rayonné. Mais que cette spiritualité est une spiritualité simple, modeste, qui n'était pas, comme disait Pierre, tournée vers l'accumulation d'or, de richesses et de pouvoir, et qui amenait l'homme précisément à faire une quête interne, personnelle. Il y a une phrase aussi qu'a dit Jésus, qu'on a oubliée, mais qu'on retrouve, qui est « je ne suis pas venu pour créer une nouvelle religion, je suis venu pour rappeler la loi de nos pères à ceux qui l'ont oubliée ». C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a même pas voulu créer le christianisme. C'est saint Paul qui, en son nom, a dit « bon, il ne voulait pas créer une religion, mais en fait, il voulait quand même en créer une ». Parce que pour Jésus, en fait, lui se considérait comme un juif luttant contre les Romains. C'est pour ça qu'il a écrit « roi des Juifs », d'ailleurs, sur la croix. Et toute sa vie, il s'est dit « qu'est-ce qu'on attend pour foutre dehors les Romains ?» Et là-dessus, non seulement les Romains récupèrent son message, mais ils mettent au Vatican, donc l'endroit où se trouvent les gens qui l'ont pourchassé, ils disent « c'est là que va rayonner la pensée de ce type qui est pour nous la référence ». Donc tout ça est un paradoxe, une étrangeté, et le fait que tout se soit construit autour du contraire du message devient presque un gag. C'est pour ça que je pense que si Jésus revenait de nos jours, il serait très surpris de voir le Vatican. Je pense qu'il n'aurait pas grand-chose à dire aux autorités qui ont établi sa parole en tant que dogme et qu'il aurait envie de repartir vers quelque chose de simple, de modeste et de direct comme une spiritualité dénuée de toute forme et de toute lourdeur. Mais c'est une opinion. Donc c'est juste pour parler du mot agnostique qui me semble l'attitude de l'honnête homme. Je ne sais pas, donc je me renseigne. Et notamment se renseigner sur la vie de Jésus, et peut-être en lisant les livres des personnes aussi qui sont là, c'est une manière d'aller vers Jésus qui est encore plus originale que celle de répéter une prière. Et encore avant, c'était en latin, c'est-à-dire que les gens ne la comprenaient même pas, mais de répéter une prière dont on ne sait pas le sens profond. À la limite, chacun devrait inventer sa prière en fonction de ses besoins propres, de sa propre histoire, de sa propre culture. Il faudrait apprendre aux gens à inventer leur prière dans ce cas.
Si vous me prêtez juste un mot sur l'agnosticisme, voilà une définition de l'agnosticisme à laquelle je suis prêt d'adhérer. Chaque fois que l'on m'a parlé d'agnosticisme, c'était des croyants qui me disaient « Mais si on vous démontrait que Dieu existe, vous diriez, vous croiriez ?» Oui, bien sûr. Donc, je suis agnostique. Et je rétorquais « Si on vous démontrait que Dieu n'existe pas, vous cesseriez de croire en Dieu. Donc, vous êtes aussi agnostique. » Et là, ça commençait à coincer. Pour beaucoup, l'agnosticisme est une façon de dédramatiser l'athéisme. Pour moi, je me dis athée dans l'expérience mystique, parce que l'expérience mystique, pour les croyants comme pour les non-croyants, se fait en dehors du concept de Dieu. Je me dis très volontiers agnostique dans tout ce qui concerne la connaissance. L'agnosticisme, c'est ne pas savoir, ne pas connaître.
Agnosko, qui veut dire sans connaissance. En fait, qu'on pourrait traduire par sans certitude.
Sans connaissance, je suis tout à fait d'accord. Dans le sens de certitude, je vous dirais que par tradition, par mes études, par ma tradition familiale, de par mes convictions profondes, je ne vis que dans le doute, sauf dans un cas. Ces expériences, oui. Et là, tous ceux qui en ont parlé n'ont qu'un mot à la bouche, c'est certitude. Le mémorial de Pascal, certitude, certitude, joie, joie, et cela suffit. Ionesco, dans un contexte totalement étranger à la religion, j'ai vu le monde s'ouvrir et j'ai eu l'impression que tous les secrets de la création m'étaient révélés d'un seul coup. C'est le seul moment de certitude dans ma vie. Et c'est vrai que je m'y tiens, que ce moment, pour moi, est athée, parce que c'est une certitude qui est en dehors de tout ce que je peux lire et entendre.
En fait, ce que tu es en train de raconter, c'est un athéisme mystique.
J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les mysticismes athées », oui.
Bon, mais c'est un paradoxe.
Le paradoxe, c'est la seule façon de briser les certitudes.
Ah oui, le paradoxe est vraiment intéressant, c'est même fondamental. Des enseignements comme le Tao sont extrêmement paradoxaux en permanence, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent jamais nous reposer sur une quelconque certitude. Tout de suite, c'est rebasculer par une autre affirmation. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de vivre effectivement les paradoxes. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à la perception d'expérience, enfin à l'expérience directe des choses, c'est difficile de donner un nom de Dieu et tout ça, parce que Dieu, s'il existe, il est sans forme, donc c'est pas un petit bonhomme sur nuage, on le sait, bon, etc. Peu importe, c'est plutôt une énergie, c'est effectivement une sorte de... Vous avez parlé de révélation des secrets de l'univers global, enfin, etc. Donc c'est extrêmement difficile à définir. Et moi, ce que j'ai envie de définir par instant présent. Et je pense qu'on ne sait pas vivre l'instant présent. Et je pense que les religions sont des matérialismes spirituels parce qu'elles promettent un ailleurs. Et donc, elles empêchent de vivre le présent. C'est-à-dire qu'on gagne son paradis, son bonheur, par des pratiques, par une régularité, par des dons, par ceci, par la charité, tout ça. Mais on n'est jamais dans le présent de ce qu'on vit à l'instant. Et je suis beaucoup intéressé aux penseurs orientaux, entre autres les Indiens, dont un qui s'appelle Ramana Maharshi, qui dit que ce qu'il faut, c'est brûler la montagne de camphre. Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on estime être, ou tout, sur ce à quoi on réfléchit, tout ça n'est que du camphre, et il faut le brûler en permanence. Et ça, là, cette définition-là de la spiritualité m'intéresse, parce que c'est effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait jamais ce qui va se passer demain, il n'y a aucune certitude sur rien, mais c'est là où l'expérience prend tout son sens, à mon avis.
Je rebondis sur une réflexion tout à l'heure que vous avez dit. Vous avez dit mon personnage après la commune et ça m'a permis d'explorer quelque chose. Est-ce que ça veut dire que quand vous écrivez sur la religion, sur la spiritualité, quelque part ça vous permet aussi d'explorer vous-même le sujet en tant qu'auteur et en tant que personne ?
Oui, évidemment. Quand je commence un livre, je suis dans le même état que mon héros, à savoir endormi. Et le livre me réveille, et en même temps qu'il réveille le lecteur, qu'il réveille le héros. Je crois qu'il faut vivre l'expérience de ces personnages pour pouvoir en parler bien. Si je sais déjà tout, je suis rempli de certitude au moment où je démarre le roman, mon roman, ça, on va sentir que mon personnage, en fait, il a une sorte de retenue, mais qu'en fait, il n'est pas vrai. Donc il faut la même naïveté, la même quête que le personnage pour entrer dedans. Et quand j'ai écrit « Nous les dieux », je ne savais pas où ça allait me mener. Tout ce que je savais, c'est que de jouer à ce jeu de stratégie sur ordinateur m'amenait à me poser des questions sur est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas les pièces d'un jeu au-dessus. Et ce questionnement, c'est-à-dire j'écrivais, je jouais et j'avançais dans le raisonnement en même temps que je lisais des textes anciens. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup dans le taoïsme, le bouddhisme, des réponses, notamment tout à l'heure Pierre évoquait le ici et le maintenant. C'est vrai que c'est l'expérience de conscience et de mysticisme la plus forte. Si on veut dire à quelqu'un, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire de ta pensée intelligemment, de vivre cet instant à fond, c'est déjà un exercice très difficile. Ça fait partie aussi d'expériences que j'ai faites pour écrire Nous les dieux. Parce que le problème, en effet, de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils sont tout le temps projetés dans le futur, donc ils ne jouissent pas de l'instant. Et en même temps, ils vivent la peur du futur, donc ils sont déjà dans l'anxiété de ce qui va arriver. Donc au final, ils ratent l'expérience de « bon sang, tout va bien maintenant, je respire, je suis vivant, et en plus, il se passe des choses autour de moi ». Et donc c'est des choses que nous amène l'écriture. L'écriture nous apprend une forme de spiritualité. L'écriture est une manière de nous auto-éduquer et d'explorer quelque chose où on ne sait pas très bien où ça va aller. Je ne crois pas que nous sommes des écrivains savants. Nous avons une culture, nous faisons notre documentation, mais nous ne sommes pas dans des réceptacles de connaissances dures et nous serions juste là pour transmettre ces connaissances dures. Au contraire, je vois plutôt la démarche du romancier comme une action dynamique, un cheminement on ne sait pas très bien où on va aller, mais le cheminement est déjà l'expérience, comme le lecteur, en cheminant dans nos livres, va vivre aussi une expérience.
Karina, est-ce que tu es d'accord ?
Oui, mais disons qu'il y a une phrase que j'aime bien, qui curieusement a été dite par un rabbi, c'était Rabbi Nachman de Breslav, qui disait « Ne demande pas ton chemin, sinon tu risquerais de ne jamais te perdre ». Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on va s'enfermer dans des chemins qui vont absolument nous mener quelque part, et on va aller toujours tout droit, et on va pas regarder ce qu'il y a de chaque côté, avec cette chance de se perdre et de découvrir autre chose qui n'était pas prévu au départ. Donc il y a cette forme-là de, justement de se perdre pour mieux se retrouver dans la spiritualité et dans l'écriture. Quand je commence un livre, je peux bien avoir mes idées, mais je ne sais jamais où elles vont me mener complètement, et effectivement, vivre l'expérience de son héros, le faire cheminer à travers une aventure qu'on ne pourra jamais vivre soi-même, parce que ça se passait dans un autre monde, dans un autre temps, sur une autre planète. C'est un cheminement qui nous permet de nous perdre complètement et de nous retrouver au final, parce qu'on a expérimenté quelque chose qui tient de l'expérience, oui, de la spiritualité totale. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est ailleurs et on va ouvrir d'autres portes vers d'autres mondes complètement. Et c'est exactement ça.
Pierre, tu voulais réagir ?
Oui, enfin, pour moi aussi, l'écriture, c'est une expérience de l'ordre de la transe. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui écris, c'est quelque chose à travers moi. Que je ne maîtrise absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que moins je maîtrise, et mieux c'est, plus c'est intéressant pour le livre. Parce que de vouloir tout contrôler, donc comme font les religions avec la spiritualité, finalement avec l'espèce d'élan spirituel que je pense à tout homme en lui, discutable, mais je le pense profondément. Et donc, c'est de partir, de découvrir, comme dit Karina, et de vivre. Parce que l'écriture en elle-même est une expérience, parce qu'elle nous emmène dans des endroits qu'on n'a pas prévus. Beaucoup dans le subconscient, beaucoup dans des endroits qu'on n'a pas envie de voir. Donc elle peut être douloureuse, parce qu'elle peut nous faire traverser des états comme nos héros, c'est-à-dire des épreuves. Je suis parfois très, très mal quand j'écris, parfois je suis très heureux, parfois ça se passe très très bien. Nous sommes probablement des auteurs scripturaux, selon la définition de Francis Berthelot, c'est-à-dire des gens qui partent avec l'écriture sans avoir forcément un plan extrêmement détaillé. Et donc il faut se faire confiance, c'est l'écriture qui guide, qui est le fil d'Ariane dans nos labyrinthes. Et j'ai un petit truc qui m'arrive, une petite anecdote: à chaque trois quarts de livre, j'ai une crise, je me dis je maîtrise rien, donc je panique. Donc ce que je fais, c'est extrêmement mauvais, parce que de toute façon, et donc je perds confiance dans l'écriture, et c'est ce que j'appelle ma crise des trois quarts, qui en général passe en deux jours, et je reprends, parce qu'il faut passer ce cap là qui est... Parce qu'on est rentré dans la grotte avec la lumière de l'extérieur, on a creusé, on est toujours guidé par un petit peu de lumière, et puis d'un seul coup, on est dans le noir complet, enfin, c'est comme ça que j'en sens les choses, et il n'y a pas la lumière de la sortie. Et là, c'est la confiance absolue à ce qui se passe. Et là, c'est le moment présent, justement. C'est le moment présent de l'écriture, c'est le moment présent. Il faut être dedans à fond. Sinon, dès qu'on a un doute, un décalage, c'est terminé. C'est de la merde ce que je fais, ça a aucune valeur, etc. Et donc, je laisse passer la crise des trois quarts. Et en général, la fin galope toute seule, en revanche. C'est comme si elle filait d'un seul coup, parce qu'on avait passé le gros morceau, l'obstacle, et que, finalement, tout pouvait se dérouler tranquillement.
C'est ce qu'on disait. On s'est vu il y a un mois, et c'est ce qu'on se disait. On se demande toujours pourquoi ça va intéresser des gens, ce qu'on écrit. Et c'est vraiment ça, c'est cette crise de se dire, mais après tout, j'écris, mais pourquoi ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour les autres ? Est-ce que c'est pour les deux en même temps ? Où ça va mener ?
C'est la question de la légitimité, en fait. Est-ce qu'on est légitime pour raconter des histoires ? Pourquoi ça passe à travers moi ? Quelle est ma responsabilité là-dedans ? Je pense que plus on se dégage de ses responsabilités, plus on décharge le fardeau de la responsabilité, et mieux c'est pour le livre. Mais bon, ça, c'est un point de vue.
Jean-Claude Bollen.
Oui, il ne faut pas oublier qu'un livre, ça commence toujours par une page blanche. Et si l'auteur n'est pas lui-même une page blanche, s'il vient avec ses idées, s'il vient avec quelque chose à démontrer, ce n'est pas un romancier, c'est peut-être un essayiste. J'écris aussi des essais. Dans un essai, j'essaie d'apporter quelque chose au lecteur, d'apporter un savoir au lecteur. Dans le roman, ce sont mes personnages qui m'apportent quelque chose. La démarche est totalement inverse. Le roman, pour moi, ne peut commencer que lorsqu'on est dans cet état de totale vacuité, de total néant. C'est ce que Mallarmé appelait le creux néant musicien. Et pour reprendre un passage de Maître Eckhart, j'ai travaillé 10 ans sur Maître Eckhart, j'ai un petit peu en tête. Le seul passage qui est un peu personnel chez Maître Eckhart, il parle d'un homme qui rêvait qu'il était gros de néant comme une femme est grosse d'enfant. Et dit-il, Dieu est né dans ce néant, Dieu était le fruit de ce néant. Le Dieu qui naît dans le néant, le creux néant musicien de Mallarmé, c'est ma conception de la création. C'est cette totale vacuité qui fait que tout à coup les choses vont faire irruption en moi-même. Et sans cela, pour moi, il n'y a pas d'écriture romanesque.
Une petite question ouverte avant de passer aux questions du public. Du coup, la conférence était sous-titrée. Y a-t-il un dénominateur commun entre toutes les spiritualités pour atteindre le divin ? Est-ce que vous avez une réponse ? Qu'est-ce que ça vous interpelle ?
Oui, certainement qu'il y a un point commun, je pense. Je vais dire une bêtise, je pense. Je pense que toute religion génère son propre mysticisme. Il y a des expériences mythiques dans toutes les religions. On va parler de la Kabbale, on va parler, pour moi, l'islam soufiste est un islam d'expérimentation et non pas de dogme. Dans la religion catholique, on a donc parlé de Maître Eckhart et tous les mystiques chrétiens. Donc, quelque part, toute religion sécrète ses propres mystiques et donc ouvre des chemins d'expérimentation directe. Après, faut savoir évidemment les trouver. Et je pense qu'un mystique juif, un mystique musulman, un mystique chrétien ne s'apprend jamais dessus. Puisqu'ils ont exactement le point commun qui est l'expérience directe. Ceux qui vont se taper dessus, ça va être les dogmatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'expérience. Je suis persuadé que dans toute religion, il y a ces chemins qui sont souvent cachés, occultés par les hiérarchies, justement, qui permettent d'accéder à l'expérience directe.
Karina ?
Sans parler... C'est bon, on entend ? Ça marche ?
Est-ce que vous entendez Karina ?
Vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. Oui. Sans parler de religion, en parlant juste de spiritualité... Si ça mène au divin, je pense qu'il y a une parcelle de divin, on pourrait l'appeler divin ou autre chose, dans chacun d'entre nous, dans tous les hommes, ne serait-ce que parce qu'on a ce pouvoir de création quand on fait un enfant, quand on imagine une histoire, quand on va faire une œuvre artistique, quand on va jouer quelques notes de musique, on est capable de créer, on a une part de divin, et donc à partir du moment où on lâche cette part de divin, qu'on s'autorise à l'exprimer, elle mène vers la spiritualité, vers cette quête absolue. D'une certaine manière, on l'a tous en nous. Après, il faut être capable de la laisser s'exprimer, parce que ça peut faire peur aussi. Donc c'est là où on va se poser des barrières.
Est-ce que quelqu'un va encore rebondir ?
Oui, moi je rebondirais juste sur toute religion génère son mysticisme. Je suis totalement d'accord et exactement à l'opposé. Tout mysticisme génère sa religion. Je pense que ce qu'il y a de commun entre toutes les expériences dans toutes les cultures, c'est l'homme, tout simplement. Et l'homme vit cette expérience et puis... Et puis, il crée une religion pour se les expliquer. Ça, c'est ma conviction. Je ne serai pas dans l'incertitude, mais dans l'agnosticisme sur cette conviction. Mais je pense que s'il y a quelque chose de commun entre toutes les cultures, c'est l'homme.
Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question ? Profitez-en. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro.
Alors, je ne sais pas si c'est... Ça ne va pas être une question très longue. J'aimerais savoir si les auteurs présents pensent que l'anthropomorphisation de Dieu est l'une des barrières majeures à la spiritualité.
Allez, Pan, qui veut répondre ?
L'anthropomorphisation de Dieu, c'est tout simplement parce que au moment où les religions ont démarré, il fallait que les gens comprennent de quoi il s'agissait, et qu'ils sont allés au plus simple, ils ont dit c'est Dieu le Père. Donc le rapport qu'un enfant a avec son père, c'est le rapport que doit avoir un croyant avec Dieu. Ils ont utilisé des schémas qui étaient déjà prêts, à savoir le père détenant le savoir et l'autorité, et l'enfant devant obéir et étant ignorant, c'est ce même rapport qui a été reproduit. C'est juste un schéma, le schéma qui est déjà génétiquement prêt chez nous. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de religion qui a dit le schéma ancien étant dépassé ou n'étant plus adapté, passons à une vision non anthropomorphique. Mais normalement, bon, vu que la science est arrivée et que maintenant on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers et on sait que l'homme descend a priori du singe, il faudrait qu'une religion ose dire c'était le système ancien, maintenant, vu que vous êtes devenu plus intelligent, on peut vous parler d'une autre forme de visualisation de la divinité. Or, ce saut, que je sache, n'a pas été fait. Tout simplement parce que si on dit réfléchissez à une autre forme, les gens ne voient rien. Si vous dites c'est un grand monsieur en toge avec une barbe blanche, les gens voient tout de suite de quoi il s'agit. Mais si vous dites Dieu est indéfinissable dans sa forme, bon, ben, vous renvoyez les gens à rien du tout et du coup, en fait, ils vont quitter la religion. C'est comme Mickey, il faut qu'il y ait un visuel. Si vous enlevez le visuel, si on vous dit c'est l'aventure d'un petit personnage assez proche de la souris mais avec des grandes oreilles, voyez, vous avez du mal à visualiser. Tandis qu'on vous montre Mickey, tout d'un coup, tac, vous voyez bien le truc. Donc c'est un problème pour toucher des foules. On peut pas se permettre de leur dire il existe une entité non définissable et informelle qui est Dieu et vous devez lui obéir. On est obligé de s'en référer à une forme.
Il y a cette phrase dans la Bible qui dit que Dieu créa l'homme à son image, qui probablement explique aussi le fait qu'on anthropomorphise Dieu. Et d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les religions, hein, y compris l'hindouisme, dans la religion grecque, où les dieux sont juste des aspects d'humains. J'ai envie de dire, c'est des aspects d'humanité qui sont. Mais nous, dans la Bible, on a un Dieu unique, et donc évidemment, il prend tout sur lui et il est anthropomorphisé automatiquement puisqu'il nous a créés. Comme lui est. Alors donc,
il y a un mot extrêmement laid en théologie qui est l'apophase et qui répond exactement à cela, qui est commun aux mystiques musulmanes et aux mystiques chrétiennes de dire on ne peut pas dire ce que Dieu est. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce qu'il n'est pas. Si on dit Dieu est grand, il y a toujours quelque chose de plus grand que le grand. Si on dit Dieu est bon, il y a toujours quelque chose de meilleur que ce qui est bon. Et donc on ne peut dire que Dieu n'est pas grand, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas tout ceci. On ne peut dire que ce que Dieu n'est pas jusqu'au point minimum. Et là, on échappe à l'anthropomorphisme. Et c'est dans ces milieux-là qu'est née la célèbre définition, qui je pense d'Alain de Lille, où je peux me tromper, Dieu est un cercle dont la circonférence est nulle part et le centre partout. Là, il y a une définition de Dieu à laquelle je serais prêt d'adhérer.
Alors, on a imaginé Mickey dans les églises. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui.
C'est George. Pas une question, c'est une réaction à une phrase que vient de citer Pierre, où il est, quand il a dit Dieu a créé l'homme à son image, et que nous rétorquons en faisant de Dieu, en voyant un Dieu à notre image, nous employons le mot « image » de manière incorrecte. Parce que justement, l'homme a son image, ça veut dire que l'homme a certaines qualités de Dieu, mais que l'homme n'est pas Dieu. Et nous, nous faisons de Dieu un homme.
Alors Pierre,
je ne suis pas d'accord quand tu dis que l'homme n'est pas Dieu. Si nous sommes un éclat du divin, nous sommes Dieu, à mon avis.
Alors là, d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi, et après avoir lu Valentin Michael Smith, mais si je regarde ce qui est écrit dans le texte de la Bible, il dit exactement que Dieu interdit de penser cela. Dieu veut que l'homme reste en dessous de lui et ne réclame pas son droit d'être un éclat de Dieu. Tous les le péché originel, la destruction de le déluge, la destruction de Sodome et Gomorre, la destruction de... À chaque fois, Dieu punit l'homme qui prétend être son égal.
On ne va pas se lancer dans une querelle théologique là maintenant, mais...
si je peux juste me permettre, l'anthropomorphisme ne vient pas de Dieu a créé l'homme à son image. La preuve, c'est que la religion juive n'est pas une religion à Dieu anthropomorphe. Elle vient du Nouveau Testament, de qui voit le Fils voit le Père. Et donc, comme on a vu le Fils sous les traits d'un homme, on peut représenter le Père sous les traits d'un homme. C'est une caractéristique chrétienne et ce qui ne vient certainement pas de l'Ancien Testament.
Une autre question.
Pourquoi l'expérience mystique ou la spiritualité implique forcément une mise à mal du corps? Moi, je m'interroge toujours beaucoup, y compris dans vos écrits. On passe souvent par, ou dans des expériences mystiques qui existent aujourd'hui, hein, on passe vraiment par une mise à mal du corps. C'est-à-dire, on passe par la douleur et ensuite par le détachement. Et je ne comprends pas pourquoi il faut toujours passer par ce stade-là, en particulier de la douleur.
Pas toujours. Hein. Là encore, c'est une vision christique. Mais pour prendre le judaïsme, il y a une phrase qui dit qu'il faut entretenir la joie et le plaisir pour plaire à Dieu. Donc, il n'y a pas de... Les religions musulmanes, ils ont une fête où ils doivent faire des contritions. Dans l'Opus Dei, il y a des contritions aussi physiques, mais c'est des branches dures du système. Il y a des voies de douleur, il y a des voies de plaisir, et je voudrais aussi citer le bouddhisme et le tantrisme et le taoïsme, qui sont plutôt des religions dans lesquelles le plaisir est autorisé, la joie est autorisée, encouragée. Il y a même une forme de bouddhisme dans lequel l'orgasme est une manière de rejoindre Dieu. Mais donc, et ce n'est pas forcément douloureux.
La douleur, tu parles de mes livres peut-être, hein. Un petit peu, ouais, d'accord. Donc je suis chrétien d'origine, sûrement que ça doit être ça. Non. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si l'expérience mystique est l'apprentissage de la perte, c'est-à-dire se défaire de tous ces conditionnements, eh bien il y a des moments douloureux forcément parce qu'on est obligé d'abandonner des choses. Et abandonner des choses, c'est parfois douloureux, je pense.
Je pense que dès qu'il y a ce masochisme, cette complaisance dans la douleur, on n'est plus dans le mysticisme, on est dans le fanatisme. Tous les mystiques que j'ai lus et qui m'ont parlé parlent de joie, de fruition, c'est-à-dire de jouissance extatique et de jouissance qui est comparée à la jouissance sexuelle, ouvertement, d'ivresse. Pour revenir toujours à celui que je connais le mieux, Maître Eckhart, il s'est battu contre les flagellants, contre ce mépris du corps qui est déjà une forme d'attachement au corps. C'est trop s'attacher au corps que de dire qu'il faut le macérer, lui donner la douleur. Non, c'est au-delà et c'est joie, jouissance, plaisir, extase.
Mais je pense que l'expérience mystique, elle ne se commande pas, du coup.
Surtout pas.
L'état qu'on va ressentir au moment d'une expérience, on ne sait pas lequel il va être. Il peut passer de la joie effectivement extatique la plus pure à une sorte de souffrance inexprimable. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est complaisant avec la souffrance. C'est que juste elle nous traverse et que aussi, quelque part, on doit l'accepter, puisqu'on doit accepter tout ce qui arrive. Au revoir, Bernard.
Bernard Werber a un train, donc il est obligé de nous quitter.
Un train pour lui tout seul. Hein,
voilà, je ne voudrais pas le rater, mais je vous laisse en bonne compagnie. Merci.
En dehors de la complaisance, je pense qu'effectivement, on peut être traversé par toutes les formes d'émotions, de sensations que traverse un être humain dans sa vie. Quoi. Et probablement multiplié par l'expérience mystique.
Une dernière question.
Excusez-moi, M. Werner est parti, elle lui a été dirigée, mais je la pose quand même. Hein. La première fois que j'ai parlé à un musulman, je lui ai dit « Dieu a créé l'homme à son image ». Il a levé les bras au ciel et m'a dit « Oh mon Dieu, il ne faut jamais dire ça ». Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est Dieu ?» Alors il m'a dit « Il faut dire, monsieur, c'est le Créateur ». Je lui ai dit « Ah bon ? Ok ». Mais je lui ai cité la première phrase de l'évangile de Saint Jean, au commencement était la parole. Il me dit, oh là là, jamais il faut dire ça, jamais. Et dans l'islam, on définit Dieu comme quoi ? Comme quelque chose qui n'a pas été créé et qui ne crée pas. Donc, c'est une par la négative. Donc, quelque chose qui ne crée pas et qui n'est pas créé. On tombe. Par contre, on lui donne des attributs. C'est le plus grand, c'est le plus puissant, le plus miséricordieux, le plus... Vous voyez, des attributs que de ce genre-là. Alors moi, je pose la question, si dans l'islam, cette notion de Dieu ne rejoint pas un peu celle de l'infini.
Waouh.
Et si vous permettez encore une autre petite remarque, comment se fait-il que toute une population qui se réclame de l'islam croit toujours en quelque chose de transcendant, Dieu? Et comment se fait-il qu'une population de 1,5 milliard ou quelque chose comme ça de musulmans ont toujours dans la tête que Dieu, hein, ben Dieu, c'est pas l'homme?
Je ne suis pas spécialiste de l'islam. Hein. Infini, ça me paraît évident, parce que il n'y a pas de limite. Vous avez parlé du cercle sans centre, de centrer partout et circonférence nulle part, non, c'est ça. Et pour moi, c'est ça la définition aussi. C'est une définition qui me plaît beaucoup. Maintenant, j'avais une idée en tête, mais je l'ai un peu perdue. Ça m'a évoqué quelque chose que vous disiez. Ouais, je ne sais plus.
Oui, si on essaie d'ajouter des unités pour arriver à l'infini, on n'y arrivera jamais. L'infini ne va pas vers le haut, il va vers le bas. L'infini, c'est n'importe quoi divisé par zéro. L'infini, c'est ce qui arrive lorsque le néant est total. Je pense que c'est la seule façon de concevoir l'infini, qui est inconcevable par définition, sinon ce ne serait plus l'infini. Mais moi non plus, je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais je sais qu'il y a les deux tendances dans l'islam. La tendance, effectivement, à accumuler les superlatifs pour définir Dieu, et la tendance qui est celle d'Averroès, notamment, et d'Avicenne, de retrancher jusqu'à ce qu'on arrive à cette vacuité totale qui fait qu'il y a une sorte d'appel d'air de l'infini dans le néant. Et ça, ce serait quelque chose à quoi je serais prêt à croire.
Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Vous avez dit la population croit. Et je pense que tout le problème est là. Parce que croire, ce n'est pas vivre. Et je pense que c'est ça qui fait les éventuelles contradictions des religions.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux auteurs. Vous allez pouvoir retrouver Pierre Borda, Jean-Claude Bologne, Karina Rosenfeld, mais aussi Igor Bogdanov et Gilles Francescano en dédicace à la librairie. Tout de suite, si vous restez là, vous allez avoir une passionnante rencontre avec Shina Mieville. Et puis, de l'autre côté, il y a une conférence sur la guerre, une question de frontières. Donc voilà, merci à vous, merci à tous.